Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on être à la fois d'ici et d'ailleurs ? Le 1er octobre dernier, Charles Aznavour disparaît à l'âge de 94 ans. Quatre jours plus tard, un hommage national lui est rendu aux Invalides par Emmanuel Macron et par Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien. Célébration d'un artiste à la double culture. Le 25 septembre, Manuel Valls confirme qu'il quitte la vie politique française et son mandat de député. Il part à la conquête de la mairie de Barcelone, au nom de ses origines catalanes. À l'Assemblée, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui dénoncent une traîtrise de la part de l'ancien chef du gouvernement français. Quelques jours plus tôt, le 16 septembre, Éric Zemmour fait sa rentrée sur C8. Il déplore le fait que des prénoms absents du calendrier chrétien soient attribués à des enfants nés sur le sol français. « C'est mon cas », lui répond la chroniqueuse Absatoussi. « Votre mère a eu tort de vous appeler ainsi », réplique le journaliste, avant d'ajouter plus tard « C'est votre prénom qui est une insulte à la France ». Alors qu'y a-t-il de commun entre ces trois événements ? Eh bien, à chaque fois, il y est question d'identités multiples qui cohabitent plus ou moins bien selon le regard qui est porté sur elles. Alors peut-on être à la fois d'ici et d'ailleurs ? C'est la question du soir en compagnie de deux invités. Nathalie Nick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous venez de publier chez Gallimard « Ce que n'est pas l'identité ». C'est dans la collection Le Débat. Et puis cette année, c'était il y a quelques mois, un livre qui pourrait venir en complément du dernier chez Gallimard. C'est une histoire de France, un récit autour d'histoire de votre famille. Et c'est publié aux Impressions Nouvelles. Pour discuter avec vous, elle est en duplex des studios de France Bleu à Toulouse. Ouria Bentouami, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous avez publié en 2015 « Race, culture, identité, une approche féministe et post-coloniale ». Et puis comme chaque dernier jeudi du mois, c'est une émission que nous vous proposons en partenariat avec le journal La Croix et en compagnie de son directeur Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Hervé.
Et je rappelle que la question du jour dans La Croix et que nous posons dans Le Grain à Moudre, eh bien nos deux invités y répondent justement dans votre journal.
Charles Aznavour aurait voulu vivre un siècle. Il se l'était promis. Il nous l'avait promis, comme un ultime défi lancé à la vie. Mais à quelques encablures du seuil, la mort est venue le cueillir sans bruit.
À l'âge de 94 ans, c'était un Charles Aznavour. Je tiens à vous promettre solennellement que je ferai tout pour mettre en œuvre votre message et qu'on puisse réaliser votre rêve pour que la nouvelle Arménie devienne telle comme vous l'aviez rêvé. Repose en paix, cher maître.
Voilà, hommage à Charles Aznavour, donc le 5 octobre dernier aux Invalides à Paris, en français et en arménien. Alors, même question à Nathalie Hennick et à Ouria Bentouami. Est-ce que, finalement, à travers cet exemple, on peut d'ores et déjà répondre que, bah oui, la preuve, on peut être à la fois d'ici et d'ailleurs, Nathalie Hennick?
Oui, on le voit bien, en effet, dans le cas de Charles Aznavour et dans le cas de beaucoup de gens. En fait, peut-être que le seul contexte où on ne peut pas être d'ici et d'ailleurs, c'est le contexte administratif de sa carte d'identité ou de son passeport lorsqu'il faut déclarer sa nationalité au contrôle. Parce que, sauf cas de double nationalité, ce qui existe, en général, on a une nationalité et de ce point de vue, en effet, on ne peut être que d'ici. Mais pour tout le reste, les contextes dans lesquels on a à déclarer ou à se représenter son identité sont extrêmement variables et selon ces contextes, on peut parfaitement, par exemple, dans sa vie familiale, être d'une tradition étrangère au sol sur lequel on vit et en même temps, par ailleurs, se sentir parfaitement du pays où l'on vit par la langue, par l'éducation, par la culture. Et c'est justement, enfin me semble-t-il, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est la multiplicité des origines présentes sur un même territoire. Simplement, tout dépend, encore une fois, des circonstances circonstances dans lesquelles on est amené à se définir et à être défini par autrui.
Ce que le cas de Charles Aznavour a peut-être de singulier, c'est que cette fois-ci, c'est une double appartenance qui est célébrée officiellement par le président de la République et par un Premier ministre. C'est pas si courant, ça, par contre.
C'est pas si courant parce qu'il n'est pas si courant d'accéder à ce degré de notoriété internationale, tout simplement. C'est une très très grande figure et donc du même coup, il fait l'objet d'hommages officiels et en France et en Arménie. Et du même coup, ça nous paraît particulièrement frappant. Tout le monde n'a pas la chance de faire l'objet d'hommages officiels des présidents de la République.
Et est-ce que vous rajouteriez, Ouria Bentouamine, tout le monde n'a peut-être pas la chance de voir justement cette double appartenance célébrée, pas seulement du fait de sa notoriété, mais peut-être aussi par la nature de cette double appartenance?
Oui, alors précisément pour répondre aussi à votre question, est-ce qu'on peut être d'ici et d'ailleurs? Oui, dans les faits, mais disons que dans le droit, on n'a pas, comme le disait Dalianis, on n'a pas nécessairement effectivement les mêmes droits et les mêmes prétentions à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il est effectivement intéressant de voir, c'est une commémoration nationale et qu'on a complètement intégré au corps national l'idée d'une double culture qui serait celle effectivement de l'Arménie et de la France. Mais c'est une identité très spécifique que l'identité arménienne en l'occurrence, puisqu'elle n'est pas phobogène, elle n'est pas criminalisée en tant que telle. Au contraire, enfin, on pourrait même dire qu'il y a une forme d'exotisme presque à parler de l'Arménie, à y faire référence à une culture justement chrétienne, orthodoxe, etc. Donc en ce sens-là, effectivement...
Alors excusez-moi, Ouria Bentouamine, j'ai l'impression qu'on vous perd un tout petit peu, je ne sais pas si c'est parce que vous vous éloignez du micro, mais voilà. Voilà, je vous laisse poursuivre, mais on vous D'accord. entendait beaucoup moins bien. Allez-y.
D'accord, très bien. Donc il y a des identités qui sont beaucoup plus, des doubles cultures qui sont beaucoup plus phobogènes que d'autres. Et en l'occurrence, celle de la double culture franco-arménienne, elle est même plutôt rassurante, disons, dans le contexte actuel, comme je le disais, puisqu'elle fait référence aussi à une forme de proximité, de familiarité, qui serait une chrétienté un peu exotique, puisque c'est quand même une chrétienté orthodoxe. Mais, effectivement, il y a des identités qui sont bien plus stigmatisé en l'occurrence.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans La Croix, dans l'interview à laquelle vous répondez justement dans La Croix du jour. On pose la question de la double identité pour des identités très spécifiques que l'on considère comme suspectes. On ne va jamais reprocher à un franco-américain d'être partagé entre la France et les États-Unis. Les identités qui sont, en tout cas les doubles identités qui sont considérées comme suspectes, ça peut être quoi par exemple?
Disons qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est surtout les identités afrodescendantes. Très large, majoritairement, et au niveau confessionnel, c'est lorsque l'on dit qu'une personne, enfin supposément, voilà, est musulmane. Ce sont vraiment les deux identités les plus stigmatisées, je veux dire, même concrètement, c'est-à-dire qui font l'objet de contrôles d'identité intensifiés, qui font l'objet de contrôles aux faciès, etc. Donc ça, c'est des formes d'identité et de double culture qui sont non seulement, j'allais dire, phobogènes, mais qui peuvent même être criminalisés d'une certaine manière.
Guillaume Goubert.
Nathalie Henny, est-ce qu'on parle d'identité, éventuellement de double, triple, multiple identité, de ce qui peut séparer, qu'est-ce qui peut créer du commun en termes d'identité dans un pays où il y a beaucoup d'origines nationales, continentales ou même régionales différentes, qu'est-ce qui crée le commun?
Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer du commun. Traditionnellement, la langue, hein, est quand même ce qui unit, même s'il y a des langues régionales, mais les nations se sont quand même essentiellement constituées sur la construction d'une langue commune. Les institutions sont évidemment un élément fondamental de création du commun. Alors ça peut être tout simplement l'institution scolaire, hein, celle à laquelle on est confronté dès son plus jeune âge, l'institution militaire pour ceux qui font éventuellement le service militaire, et toutes les institutions de type mairie, etc. Enfin, tout ce qui représente la communauté nationale de façon officielle. On a également les traditions, hein. On a toutes sortes de traditions qui font que on se sent appartenir à une collectivité. Et puis, on a aussi, alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, les valeurs, notamment, alors, dans le débat français actuel, des valeurs d'égalité, les valeurs de laïcité, valeurs de citoyenneté. Et en fait, on voit bien comment il y a En fait, le débat aujourd'hui me semble concentré autour de deux conceptions de la façon d'appartenir à une collectivité. La conception républicaine qui consiste à dire que dans le contexte de la citoyenneté, c'était le contexte du vote essentiellement et le contexte de la définition de soi en tant qu'appartenant à une collectivité nationale, il est important d'être capable de suspendre les autres affiliations pour se définir en fonction de son identification à un collectif de type national.
Bon. Suspendre, qu'est-ce que ça veut dire ?
Suspendre, ça veut dire que on n'est pas catholique à plein temps, on n'est pas une femme à plein temps, on n'est pas un musulman à plein temps, on n'est pas un sociologue à plein temps. Il y a des contextes dans lesquels certaines facettes de notre identité sont pertinentes et d'autres où ils ne le sont pas. Et on est capable de jouer sur cette multiplicité des facettes de façon à mettre en avant, dans, à certains moments, celle qui nous paraît le plus importante. Donc la conception républicaine consiste à dire qu'on a parfaitement la possibilité, la liberté de suspendre des affiliations qui seraient des affiliations de type communautaire, appartenance à des collectifs religieux, de sexe, de préférence sexuelle, d'ethnie, etc., au profit donc de cette façon un peu abstraite, mais très puissante, me semble-t-il, d'être un citoyen qui consiste à dire simplement on appartient à la collectivité nationale. L'autre conception, qui est beaucoup plus présente dans les pays de type anglo-saxon, donc qui est davantage tourné vers ce qu'on appelle le multiculturalisme, consiste à accepter que les individus se définissent en tant que citoyens en fonction de leurs affiliations particulières à des collectifs de race, de religion, de sexe, etc. C'est les deux grandes possibilités politiques aujourd'hui, et je pense qu'on les comprend mieux si on prend en compte la multiplicité de ces jeux identitaires que tout un chacun est capable de réaliser, mais que les politiques qui parlent de cela semblent avoir un petit peu de mal quelquefois à mettre en pratique.
Vers laquelle de ces deux conceptions penchez-vous le plus, vous, Ouria Bentouani?
Alors, en réalité, d'une certaine façon, ni l'une ni l'autre. Enfin, c'est pas comme ça que je mettrais, disons, les termes du débat. Pour comment créer du commun, en l'occurrence, je reprendrai la formule de Spinoza, il faut que toutes et tous aient les mêmes craintes et les mêmes espoirs. Donc aussi bien, on y concrètement, au niveau de l'accès à l'emploi, à la santé, à une éducation digne, à des logements dignes, etc. Donc c'est vraiment, il y a cette idée très forte, je pense, que lorsque aussi on demande la reconnaissance de certaines formes d'identité, c'est aussi non pas un droit à, une revendication d'un droit à la différence, mais d'un droit à l'égalité. Et ce que vous disiez, Nathalie Hanisch, à propos de justement l'injonction républicaine louable qui demande que l'on soit capable de suspendre ses affiliations particulières, traditionnelles, etc., communautaires, religieuses, confessionnelles. Bon, en réalité, comment cette injonction fonctionne ? Eh bien, elle pèse beaucoup plus, encore une fois, sur certaines identités, sur un certain type d'affiliation que sur d'autres. C'est-à-dire qu'on va considérer quand même certaines populations comme étant presque par essence incapables précisément de suspendre ces affiliations. Et on va même demander une espèce une surenchère même dans la demande de déni de sa propre culture. Et c'est là, c'est problématique parce qu'en réalité, l'injonction républicaine telle qu'on l'entend aujourd'hui dans le climat tel qu'il est, un climat populiste, autant le dire, populiste de droite, xénophobe, a très peur finalement de tout ce qui relèverait des cultures, comme je le disais, voilà, des cultures afro-descendantes et notamment des cultures arabes et musulmanes. Donc c'est pas simplement être un citoyen qui va créer du commun. En fait, c'est une abstraction tant telle la citoyenneté. Il ne suffit pas de dire que tous sont citoyens, puisque dans la réalité, on le voit, c'est pas vrai. On n'a pas les mêmes craintes et les mêmes espoirs. Certains ont beaucoup plus peur de la police que d'autres. Certains ont beaucoup plus peur du conseiller d'orientation scolaire que d'autres. Certains craignent beaucoup plus donc d'arriver sur le marché du travail que d'autres, etc.
Donc vous dites, donc, en gros, il est illusoire de demander aux gens d'avoir les mêmes devoirs tant qu'ils n'ont pas les mêmes droits.
Je ne dis pas ça. On doit avoir tous les mêmes devoirs et les mêmes droits. En revanche, certains doivent avoir un accès aux droits renforcés. Et c'est vraiment cette idée-là que je pense qu'il faut retenir, c'est-à-dire que pour qu'on arrive finalement à une forme de justice dans la reconnaissance des identités, si cette reconnaissance doit effectivement avoir lieu, eh bien il faut que certains puisse être davantage, disons, pris en compte. Or, ça ne marche pas avec simplement l'idée d'une neutralité républicaine ou d'une neutralité tout court, je pense, à un point de vue procédural, dans des procédures de recrutement de concours, des concours nationaux, etc.
Nathalie Hennig veut vous répondre.
Oui, ça, c'est la grande différence entre le niveau des droits et le niveau des faits, hein, et des pratiques, bon, qui est évidemment très problématique. Nous sommes tous égaux en droit en République française, mais en pratique, nous n'avons pas tous les mêmes capacités de faire valoir nos droits. Mais je pense que pour bien comprendre le problème, il faut remonter un petit peu en arrière, bien en deçà de la question de l'immigration d'origine musulmane sur le territoire français, notamment suite à la guerre d'Algérie. Je pense qu'il faut remonter dans l'histoire du 19e siècle et notamment l'histoire de l'israélitisme à la française, qui, je trouve, est un bel exemple de la possibilité d'être à la fois d'ici, ici et d'ailleurs, puisque l'israélitisme à la française a consisté à ce que les juifs, après l'émancipation, une partie des juifs en tout cas, ont considéré eux-mêmes qu'ils pouvaient à la fois continuer à pratiquer leur religion, à pratiquer leurs rites, à être fidèles à des traditions, à un peuple, etc., tout en se considérant comme parfaitement français, en étant extrêmement patriote, en allant se battre pour la France et en s'assimilant d'une certaine façon à la nation française. Et je trouve que c'est un bel exemple de conjonction concrète, pratique, effective entre le besoin légitime chez tous les individus de se sentir appartenir à une tradition, à des rituels, une famille, une religion éventuellement, et le besoin aussi de se sentir appartenir à un collectif national. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça a été une assez belle réussite et une belle mise en pratique de la réponse à cette question. Peut-être peut-on être à la fois d'ici et d'ailleurs.
Guillaume Goubert. Réponse d'Ouria Bentouani, et puis ensuite la question de Guillaume Goubert.
Oui, je voulais juste répondre justement. Le problème est que l'assimilationnisme tel que vous le venez de le définir, Talia Heinisch, n'a pas empêché l'antisémitisme en l'occurrence.
Ah, bien sûr. Je parlais de l'israélitisme du point de vue des juifs eux-mêmes. Le problème étant que ça a réussi pour une grande partie de la population française, heureusement, parce que l'antisémitisme a été de plus en plus limité à un petit nombre d'extrémistes, disons. Le problème est que, pendant la Seconde Guerre mondiale, la politique française est devenue une politique antisémite et a en effet imposé un traumatisme terrible à toute la communauté juive qui se considérait comme parfaitement française. C'est ce qui est arrivé à mes ancêtres et qui n'en a pas moins été exterminée.
Guillaume Goubert.
Ouria Bentouami, je me demande dans quelle mesure le développement des nouveaux moyens de communication depuis une, deux générations, avec le développement des télévisions satellitaires, avec le développement des réseaux sociaux, ne rend pas plus difficile aujourd'hui pour des populations qui ont une partie de leur histoire, une partie de leur famille ailleurs, de trouver leur ancrage en France, notamment, par exemple, en termes d'apprentissage de la langue.
Alors, non, au contraire. Ça facilite, j'allais dire, la possibilité d'être à la fois d'ici et d'ailleurs, en l'occurrence, puisqu'on garde un lien renforcé avec le pays, alors de ses ascendants, puisque c'est pas nécessairement évidemment celui où on est soi-même soi-même né, parce que la question telle que vous la posez semble dire que nécessairement le fait d'entretenir un lien avec ce lieu disons d'origine, pour le dire rapidement, poserait un problème à l'appartenance, au sentiment d'appartenance.
Mais je parlais d'ancrage. C'est-à-dire le fait de se sentir de l'endroit où on vit, c'est pas forcément pour être assimilé ou identique à ceux qui vous entourent, mais d'avoir le sentiment de vivre vraiment ici et pas ailleurs.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut très bien penser aussi un sentiment d'appartenance à la France sous cette forme de la double culture qui est très forte. C'est-à-dire que même si on a, mais encore mieux, si on a encore tous ces liens avec le pays dit d'origine, ça permet quand même de vivre de manière beaucoup plus apaisée cette double culture que si on la fantasme, c'est-à-dire si on n'a absolument aucun lien, si on vit cette culture dans la honte ou dans le secret, etc., sans pouvoir l'avouer d'une certaine façon. Donc, au contraire, moi, je pense que les nouveaux moyens de communication, tels que vous venez de le dire, permettent finalement un épanouissement et plus grand de cette double culture. En l'occurrence, je pense que de toute façon, si je reprends l'exemple de l'islam, l'islam tel qu'il se vit aujourd'hui en France est français. Je veux dire, c'est même si il entretient encore des liens avec le pays d'origine, etc., par la famille, par donc d'un point de vue affectif, il est bien français et il l'est depuis de nombreuses années qui remontent bien au-delà d'ailleurs des immigrations postcoloniales, qui remontent à la colonisation, etc. Donc, du coup, je trouve que c'est une question un peu biaisée parce que pour moi, au contraire, ça permet le nouveau moyen de communication permet au contraire, je trouve de vivre réellement cette double culture plutôt que dans le fantasme.
Nathalie Hennig, qu'est-ce qui fait que ce besoin d'être justement de se référer individuellement, personnellement à des identités multiples qui peuvent être, alors dans le cas qu'on évoque ce soir, plusieurs identités, disons, nationales, se heurte à une autre problématique de l'identité, c'est-à-dire le regard que les autres portent sur votre double appartenance. C'est-à-dire, on voit bien que ce besoin pour être peut-être bien justement dans sa peau ne convient pas forcément à la communauté dans laquelle vous vivez.
C'est la grande difficulté de cette question de l'identité qui est à géométrie variable, si on peut dire. Elle a plusieurs facettes, mais elle a aussi plusieurs moments. Et plus précisément, elle a trois moments. Il y a le moment de l'auto-perception, la façon dont on se perçoit soi-même, est-ce que je me perçois comme française ou pas, etc. Il y a le moment de la présentation, comment est-ce qu'on se présente à autrui, selon les circonstances. Et puis, et c'est très important parce qu'on l'oublie trop souvent, il y a le moment de la désignation. Comment est-ce que je suis désignée par autrui, par les institutions, l'administration, etc. Et normalement, si on peut dire, il n'y a pas d'incohérence entre ces trois moments, tout va bien, on n'a pas de problème d'identité, on ne voit même pas ce que veut dire la question de l'identité. Mais dès lors qu'il y a une incohérence entre l'un ou l'autre de ces moments, à ce moment-là, un malaise apparaît, une tentative pour le résoudre, et ce malaise est d'autant plus fort, bien sûr, lorsque on vit dans un contexte où cette facette-là de notre identité est stigmatisée. Ça a été le cas pour les Juifs, ça l'est malheureusement encore beaucoup le cas dans certains milieux. C'est le cas aujourd'hui pour un grand nombre, enfin une partie des musulmans en tout cas. Il faudrait faire la part des choses entre des musulmans très intégrés et acceptant parfaitement la subordination de la religion à la politique et ceux qui sont davantage dans une conception politique de la religion. Il y a plusieurs catégories de musulmans, donc on ne peut pas dire les musulmans en général. Bon. Les homosexuels, par exemple, ont été très longtemps une identité extrêmement stigmatisée, continue à l'être aussi. Et du même coup, on voit apparaître des stratégies extrêmement intéressante à observer, qui consiste à essayer de faire coïncider ces trois moments de l'identité, à diminuer les effets de stigmatisation, ou au contraire à faire ce qu'on appelle la gay pride pour les homosexuels, c'est-à-dire que revendiquer, ou le black is beautiful hein, pour les noirs aux États-Unis, là, revendiquer cette appartenance identitaire comme une forme de fierté. Et en fait, on pourrait réinterpréter beaucoup des combats politiques à la lumière de ces questions identitaires.
Auria Bentouami, quand on est justement dans une démarche de revendication de son identité, est-ce qu'il faut aussi accepter que cette revendication-là entre en confrontation, disons, avec d'autres conceptions de ce que devrait être l'identité ? Ou bien est-ce qu'il faut absolument dénier toute contestation justement de ces identités particulières ?
Alors, dire que il faut voir que ça dépend comment est-ce qu'on... La politisation des identités, c'est-à-dire la demande de reconnaissance des identités, elle est à prendre, évidemment, si on parle de manière trop abstraite, je pense qu'on risque de perdre le sens politique de ce que ça veut dire. Mais je vais donner un exemple, puisque Nathalie Hennig faisait une distinction entre plusieurs formes d'identité et d'identification. Par exemple, les revendications qui sont faites, par exemple, pour le CRAN, vous voyez, l'identité noire en tant que telle.
Voilà, le CRAN, c'est l'identité... le Conseil représentatif des associations noires de France.
Oui, pardon, oui. C'est une identité seconde d'une certaine façon, contrairement à ce que l'on pense, c'est-à-dire que finalement, on se découvre noir, mais parce qu'on vit dans un monde qui sans cesse nous renvoie à notre couleur de peau. Quand on est noir, évidemment, ou quand on est justement quelqu'un dit de couleur. Donc, d'une certaine façon, quand je suis, Hannah Arendt le disait très bien, quand je suis attaquée comme juive, c'est comme juive que je vais me mobiliser. C'est-à-dire que je vais faire ma revendication et non pas dans l'abstraction comme être humain. Je ne vais pas dire, mais reconnaissez-moi comme un être humain. C'est reconnaissez-moi la dignité d'être juive. Et en l'occurrence, c'est la même chose ici pour le cas du CRAN, mais pas simplement. Hein. Il y a plein de formes de militantisme afrodescendant en ce sens-là, c'est-à-dire que ce sont des identités qui sont plus que brimées, qui sont stigmatisées, etc., et qui, encore une fois, ont concrètement un accès restreint, voire qui sont un accès restreint aux ressources fondamentales et qui donc vont se mobiliser à partir de cette auto-perception comme noire qui est en fait une perception seconde, c'est-à-dire que j'ai complètement intégré le regard de l'autre, la manière dont l'autre me voit, et c'est sur cette base-là que je vais évidemment me battre pour reconnaître la dignité de cette identité.
Oya Bentouami, si on revient à la question de l'identité nationale, enfin disons de l'appartenance à une nation ou à un pays, vous dites dans La Croix du jour, on est tous à la fois d'ici et d'ailleurs, car toute notre histoire est traversée par les migrations. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à un petit film qui circule en ce moment sur Internet. On voit des jeunes gens, alors qu'ils sont plutôt très fiers de du pays dans lequel ils vivent, et qui passent un test ADN et qui se rendent compte que finalement, ils sont pas 100% anglais, mais qu'ils ont aussi du sang irlandais, par exemple, indien ou turc. Enfin voilà, je donne des exemples un petit peu au hasard. Mais pour quelle raison est-ce que, puisque nous sommes porteurs de cette histoire d'immigration, nous avons, la plupart du temps, choisi d'enfouir cette histoire plutôt que de la revendiquer. Est-ce que ça n'est pas parce qu'on a aussi besoin d'une forme de stabilité dans la façon dont on vit notre identité, Oya Bentouami?
Alors, bien sûr qu'on a besoin de forme de stabilité, mais le problème, d'une certaine façon, c'est quand le fait de nier qu'une identité puisse être troublée par les flux migratoires. Je pense qu'on doit cela tout simplement au concept d'État-nation, qui fait qu'il faut qu'il y ait un territoire, un peuple, une nation en l'occurrence, avec une entité cohérente, homogène, et qui suppose, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, de suspendre toutes les autres formes d'affiliation pour adhérer à cette seule identité nationale. Donc c'est bien le concept de nation, d'État-nation, qui est finalement au cœur du problème, qui vient refouler, j'allais dire, tout ce passé migratoire, qui en fait, la France n'est rien d'autre qu'en fait, toute notre nation, en réalité, n'est rien d'autre qu'une somme de couches migratoires. Et ça remonte, je pense, depuis très longtemps.
Nathalie Hennig, pardon, excusez-moi. Comment? Comme je ne vous vois pas, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs, oui. Comme vous êtes à Toulouse, voilà, je ne vous vois pas forcément réagir. Donc, je vous écoute.
Ce que vient de dire Oya Bentouami est juste du point de vue factuel. Hein, un pays est fait de toute une accumulation de migrations. Mais du point de vue des principes et du point de vue du droit, ça n'est pas juste, puisque justement ce qui fait l'appartenance nationale, c'est la suspension de ces affiliations particulières au profit de l'affirmation du fait qu'il y a une unité nationale, et c'est ça qui fait, du point de vue de la décision de principe, l'appartenance à un pays. Mais je voudrais juste préciser une chose assez intéressante. Il y a aujourd'hui en Amérique du Nord une tendance qu'on appelle identity politics, politique identitaire ou même identitariste, qui a été essentiellement portée par la gauche et à laquelle Marc Lila vient de consacrer un très intéressant livre qui vient d'être traduit en français. La gauche identitaire. Et qui montre comment la gauche aux États-Unis et au Canada est essentiellement focalisée sur des questions de revendication identitaire, que ce soit les Noirs, les femmes, les homosexuels, etc. Selon Lila, c'est en partie ce qui a fait perdre la gauche dans les dernières élections. Et ce qui est très troublant, c'est de voir qu'en Amérique, aujourd'hui, le terme identité est connoté de gauche, alors qu'en France, il est connoté de droite depuis, disons, une quinzaine d'années, hein, depuis notamment Nicolas Sarkozy et toutes ses déclarations sur l'identité nationale. Ce qui montre bien que l'identité n'est en soi ni de gauche ni de droite. Tout dépend évidemment de l'usage qu'on en fait. Et ce que j'aimerais aussi dire, et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que vouloir réduire ce thème de l'identité à une dimension politique est une erreur, parce que le mot vaut beaucoup mieux que ces réductions politiques, et que c'est un véritable outil très utilisé par les sciences sociales, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la psychologie, etc., pour comprendre toutes sortes de phénomènes qui nous paraissent un peu bizarres ou un peu difficiles à comprendre, mais dès lors qu'on les étudie à la lumière de cette problématique de l'identité, ils deviennent limpides, extrêmement passionnants à étudier et très clairs. Et donc, moi, je milite surtout pour ne pas réduire cette problématique de l'identité aux acceptions bêtement politiques qu'on essaye de lui infliger.
Guillaume Goubert. Alors, réponse d'Ouria Bentouami.
Oui, je voulais juste dire que, d'une certaine façon, parfois, on n'a pas le choix que de prendre langue poétique des identités. Je suis d'accord que c'est passionnant aussi de parler de toute autre forme d'identité, mais en l'occurrence, quand toute votre vie est faite de tracas administratifs, de contrôle d'identité, etc., on n'a pas d'autre choix que de penser ça de manière politique. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'on puisse faire de la recherche ou même penser et même créer des formes d'identité qui ne soient pas directement arrimées sur toute cette griserie, disons, administrative qu'est la politique d'une certaine façon. Mais encore une fois, c'est parce que c'est pas une question de choix. L'angle par lequel on prend la question d'identité n'est pas de l'ordre du choix, mais bien de l'ordre, j'allais dire, du fait du rapport de force, en l'occurrence des rapports de pouvoir dans lesquels on est inséré.
Guillaume Goubert.
Nathalie Hennig, je voulais prolonger encore sur la question de l'israélitisme que vous avez soulevé tout à l'heure, et Ouria Bentouami vous faisait remarquer que ça n'avait pas empêché l'antisémitisme de sévir avec la cruauté que l'on sait. Mais aujourd'hui, on voit encore une autre dimension de la question, qui est le fait que pour la communauté juive en France aujourd'hui, la question d'Israël est une question difficile et souvent beaucoup de la question est de savoir quel degré de soutien on apporte à Israël quand on est juif. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un monde où il est de plus en plus difficile, finalement, où on est souvent sommé de devoir choisir entre différentes appartenances, et qu'il est de plus en plus difficile d'en vivre plusieurs à la fois?
Alors, déjà, c'est toujours difficile dans certains... Enfin, ça peut être difficile, et puis ça peut être très simple d'avoir plusieurs appartenances. Moi, je suis d'une double origine juive et protestante, ça me pose aucun problème, hein. Bon, voilà. Mais dans le cas des juifs, le problème, c'est la nature même aujourd'hui de la politique israélienne. C'est ça qui pose problème. Tant que les juifs pouvaient s'identifier à un État dont ils appréciaient, dont ils approuvaient la politique, la question ne se posait pas. Ils étaient français et par ailleurs, ils pouvaient avoir un attachement sentimental à l'État d'Israël. Personne ne leur demande de compte à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le problème commence lorsque on ne peut plus approuver la politique d'un État auquel, par ailleurs, on se sent sentimentalement attaché. Et là, il y a toutes les réponses possibles. Il y a les juifs de gauche de La Paix Maintenant, les juifs de gauche de J. Cole qui sont contre la politique israélienne mais qui soutiennent l'existence de l'État d'Israël. Il y a des juifs qui, au contraire, soutiennent la politique actuelle. Enfin, il y a toutes sortes. Il y a même des juifs qui sont contre l'existence de l'État d'Israël. Donc, il y a toutes les possibilités parce que, justement, c'est un problème extrêmement crucial et difficile à résoudre.
Nathalie Hennig et Ouria Bentouami, pour terminer cette discussion, je voudrais vous faire entendre un extrait d'un documentaire qui est passé en plusieurs volets il y a quelques jours de cela sur France 2, intitulé « Histoire d'une nation » à base de témoignages qui racontent justement l'histoire de la France à travers son immigration ou ses immigrations. Écoutez ces témoignages de Mercedes Serra, c'est une grande patronne de la pub aujourd'hui, puis d'une autre dame qui s'appelle Dali Sanchez, alors elle je ne la connais pas, et qui parle du poids qu'ont pu revêtir leurs prénoms respectifs.
J'étais obsédée par mon prénom, parce que alors là, tout le monde se moquait de mon prénom. Et donc, je voulais m'appeler, mon rêve, c'était Martine. Martine va à l'école, Martine, vous connaissez ses livres. Oh, ça me semblait le prénom le plus sublime du monde, quoi. Et donc, je rentrais, je disais, maman, on pourrait pas changer mon prénom. Et elle me disait, non, tu es née Mercedes.
J'ai souffert du racisme, parce que je m'appelle Dali Sanchez, et que ce nom Sanchez est très espagnol. Et pour moi, c'était très dur. Et quand je suis partie sur Marseille, là, mon monde a changé. Complètement. Parce que c'était plus moi qui subissais le racisme. À Marseille, il y avait énormément de Nord-Africains. Et là, j'ai été choquée. Parce que moi, du coup, j'étais une Française. Et je me disais, mais comment ils peuvent être aussi désagréables avec ces gens? Parce que moi, j'ai vécu ça.
Qu'est-ce que ça vous évoque, ces témoignages, Ouria Bentouani?
Et que c'est la question du prénom, en fait, du nom et du prénom est fondamentale, en fait, dans les processus, j'allais dire, de quand on subit le racisme, dans l'expérience vécue du racisme, parce que c'est vraiment il y a des prénoms qui fonctionnent à charge, du fait effectivement de leur consonance et de tout l'imaginaire que l'on peut mettre derrière, et ce rêve d'être une Martine, j'allais dire le. De fait, c'est des pratiques aussi qui sont... Ce rêve se traduit souvent aussi en pratique dans certains établissements, par exemple hôteliers, etc., qui demandent aux personnes d'origine étrangère, à leurs employés, de prendre des noms d'emprunt français pour ne pas heurter la clientèle et pour respecter une forme de neutralité onomastique, vous voyez. C'est-à-dire que véritablement, comme si leur prénom d'origine ou leur nom d'origine n'était pas neutre en tant que tel.
Ce que dit aussi le deuxième témoignage, c'est que ce poids du prénom et des origines, finalement, il s'est énormément allégé lorsqu'elle est arrivée à Marseille, où il y avait une immigration maghrébine, et finalement, elle a été davantage acceptée parce que d'autres étaient davantage rejetés.
Et oui, ben alors ça, c'est toute la question justement de quand on fait jouer une immigration contre une autre, c'est-à-dire en l'occurrence aujourd'hui, on nous dit souvent, mais regardez effectivement les Portugais, les Italiens, les Espagnols, donc les Suds en fait, qui auparavant étaient vraiment, qui étaient rejetés et puis vraiment qui étaient même d'une certaine façon racialisés, hein, considérés qu'ils étaient, presque pas civilisés, etc., sont désormais au contraire complètement intégrés au corps national et au corps européen, et au corps européen en l'occurrence. Chrétien, pour mettre vraiment la démarcation avec un E monstrueux, et qui est le E monstrueux, effectivement, en l'occurrence, les Nord-Africains pour ce qui est de Marseille. Oui.
Nathalie Nick.
Pour l'histoire des prénoms, c'est vrai que là, je reviens encore une fois à la question de l'israélitisme, mais les Juifs ont trouvé des solutions assez jolies, et je les ai puisées même dans l'histoire de ma famille, telle que je la raconte donc dans une histoire de France. La famille de mon arrière-grand-père, ils étaient 8 frères et sœurs, 8 frères pour une fille. Eh bien, ils avaient 2 prénoms, c'est-à-dire que Moïse se faisait appeler Maurice, Frija Alfred, Haïm Henri, et selon les circonstances, lorsqu'ils étaient à la maison, eh ben c'était le prénom juif, et puis lorsqu'ils étaient avec des amis français, c'était le prénom français. Et je trouve qu'on voit bien dans cet exemple cette capacité de plasticité identitaire qui permet à des gens d'être à la fois fidèles à leur tradition religieuse, culturelle, et puis fidèles à leur appartenance à un pays.
La plasticité identitaire, finalement, c'est peut-être une des formules qu'il faut retenir de cette discussion ce soir, Ouria Bentouami.
Oui, plasticité identitaire, encore une fois, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que dans l'idéal, oui, ce serait formidable qu'on puisse justement jouer de plusieurs formes d'identité, en tout se mouvoir entre plusieurs identités sans aucun problème. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours rattrapé par des formes d'identification, et l'identification, encore une fois, qui sont souvent policières, et c'est bien le problème. Policières pris au sens large, c'est pas simplement celui de la police au sens strict, au sens des forces de l'ordre, mais policières parce que dans des formes de réglementation qui empêchent finalement toute forme d'épanouissement, et qui au contraire sèment un peu la honte et la peur, et c'est bien ça qui est problématique.
Nathalie Nick, un tout dernier mot. Est-ce que le temps, finalement, ne finit pas aussi par apaiser ces questions d'identité?
Oui, en général, le temps est une bonne solution. Alors, pas toujours. Hein. On l'a vu dans le cas des Juifs qui, malgré plusieurs générations d'intégration, ont été l'objet d'un antisémitisme meurtrier. Mais on peut dire que très souvent, en tout cas au niveau individuel, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent simplement parce que on peut apprendre aussi à vivre sur d'autres plans que certains plans dans lesquels on a été enfermé, et que c'est cette capacité aussi à bouger, qui notamment à bouger avec le temps, qui nous aide aussi à sortir de ces enfermements.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci. Nathalie Hennig, donc je renvoie à vos deux ouvrages de l'année. Ce que n'est pas l'identité, ça vient de sortir dans la collection Le Débat chez Gallimard. Et puis Une histoire de France, un récit aux impressions nouvelles. Et puis Ouria Bentouami, Race, culture, identité, une approche féministe et postcoloniale au PUF. C'est un ouvrage qui date de 2015. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi relire cette discussion qui a eu lieu avant, puisqu'elle a été publiée ce matin dans le journal La Croix, avec vous deux, Jourdain de La Croix, représenté comme chaque jeudi, comme chaque dernier jeudi du mois, n'est-ce pas Guillaume Goubert? Bah, par vous-même.
Tout à fait.
Qui en est le directeur. On se retrouve donc d'ici un mois, Guillaume. Et merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Antoine Tricot, Leïla Saïdi, Antoine Dulcer et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Bruno Gagnère. Fontanille, dans quelques petites minutes, ce sera la dispute consacrée à la littérature ce soir.
Oui, dans une troisaine de minutes à peu près. On parlera de, en effet, littérature de Sophie Devry, Rachel Kochner et Jean Hatzfeld. La question du Grain à Moudre demain, enfin du Club des Idées plus exactement. Voilà, ce sera au Bel Air.
Depuis le Bel Air, le bar de Radio France. Pétition, hashtag, est-ce que c'est la dictature de l'opinion? Voilà, ce sera la question que nous poserons aux membres de notre club.
Il y aura quelques réponses durant 40 minutes.